Chapitre 5. Étrange assassinat rue d'Assas. De loin, ils virent un groupe de 4 personnes, 2 agents et 2 civils, pénétrer dans le couloir qui menait directement à l'atelier. « Déjà ?» marmonna Crépin. « Vous avez donc prévenu la police ?» chuchota Stéphane. Rosine cherchait des relations entre cette mort et les faits qui la rendaient si particulièrement déplorable. L'émotion, la déception foudroyante et sans bornes lui avaient redonné toute l'incrédulité. Monsieur de Crochant était-il allé chercher sa confirmation dans un monde que l'on ne quitte point à son gré? Ce qu'il devait la lui fournir l'avait-il gardé parmi eux? Quelques badauds s'attroupaient devant la porte. Un agent placide s'y tenait. Il leur opposa ses mains contondantes qui n'étaient que des poings mal desserrés. Crépin parlementa, l'autre rogue et typique les laissa passer. Un de ses collègues contenait dans le couloir les locataires de la maison de rapport qui affluaient par les portes de derrière. Ils montèrent, on entrait librement dans l'atelier. Là, au centre, c'était un tohu-bohu, un champ de bataille. Mais l'intérêt se concentrait sur le divan. Des messieurs l'entouraient dont on ne voyait que le dos. Ils s'écartèrent sous la poussée de Rosine. Le cadavre du chevalier s'offrit à ses yeux. Ce n'était pas un mort d'ivoire, couché dans la sagesse et la sérénité. Arqués, les jambes en crochet, les bras ramassés sous le menton, la tête rentrée dans les épaules, il avait la posture d'un homme qui, de toutes ses forces, repousse quelque chose d'écrasant ou quelqu'un qui l'étouffe. Sa main droite donnait une canne à pomme d'or, sa gauche se crispait dans la fourrure d'ours. La cravate défaite, le col fripé, la veste décousue attestaient une lutte acharnée. Une horreur lugubre s'exprimait par les yeux vitreux, effroyablement exorbités dans le visage sombre. Et la bouche tordue découvrait des gencives livides et des dents jaunes qui mordaient une langue énorme et violacée. Un des messieurs, long personnage voûté et barbu, disait, montrant par là qu'il était médecin, « Oh, la mort remonte à 7 heures environ. Il est rigide et froid. » Le crime a donc été commis entre 00h et 01h, conclut un autre qui portait le bouc républicain. C'est vous le domestique qui a prévenu l'agent de service? Oui, c'est moi, confirma Crépin. Et comment s'appelle la victime? De Crochant, Tristan. Crochant, oui, santé avec un S. Agenouillée au chevet mortuaire, Rosine, à ces mots, sanglota. Toute la gaieté de son vieil ami, consommée maintenant, se tournait en tristesse. Le personnage au bouc sécha ses larmes en lui demandant, ainsi qu'à Stéphane, ce qu'il venait faire et qui ils étaient. C'est alors que le troisième monsieur, s'adressant à Madame Orlac, lui dit le plus doucement qu'il peut, « Laissez, monsieur le commissaire, achever ses constatations, madame. Éloignez-vous un instant et permettez à une ancienne connaissance de se rappeler à vous. »« Ah, oh, monsieur Gaston Breteuil, » dit-elle en lui tendant la main. « Ah, dans quelles sombres circonstances je vous retrouve, monsieur. » Ici, en effet, se place l'entrée en scène de celui qui s'efforce de conter cette histoire avec précision et qui s'excuserait d'avoir à parler pour son propre compte si le devoir d'exactitude ne l'y forçait. Je le répète, ma présence auprès de feu, monsieur de Crochant, était des plus fortuites. Descendant la rue d'Assas pour une promenade matinale, j'avais aperçu un domestique tout défait en train d'exposer au gardien de la paix du coin une affaire assurément dramatique. Je tirai ma carte de reporter judiciaire. Crépin nous persuada, l'agent et moi, de nous rendre sur les lieux. Nous le fîmes et il nous quitta pour aller chez le commissaire de police. C'est de là que, sachant l'amitié réciproque de Stéphane et du chevalier, il avait cru opportun de passer boulevard Montparnasse. J'avais connu Madame Morlac du temps de Maman Monet, à qui j'achetais des cordes à violon, de la colophane et de la musique. Et j'étais devenu assez ami de la bonne vieille pour être invité au mariage de sa nièce. Depuis, je n'avais pas revu la charmante Rosine. Mais ses yeux étaient inoubliables et, dès l'abord, bien que sa beauté portât les traces de la peine, j'avais retrouvé dans la nouvelle venue la jeune fille d'autrefois. Pour Stefano, cela était bien différent. S'il n'avait pas accompagné sa femme, je crois que sa vue ne m'aurait rien rappelé, et que le nom d'Orlac ne me serait pas venu sur mes lèvres à l'aspect de ce petit homme boiteux et rabougri dont les traits ravagés demeuraient tendus dans un rictus souffrant. Il me salua d'un air absorbé. Je dis à Rosina, vous étiez donc en rapport avec M. de Crochamps. Sans doute avais-je aperçu le chevalier au mariage d'antan, mais son nom ne me disait plus rien, et son masque de mort ne faisait plus qu'une lointaine allusion à sa figure de vivant. Rosine m'apprit les liens qui les unissaient, sans me demander la raison de ma présence, justifiée par ma profession. Puis, cédant à ma prière, elle me renseigna sur la personnalité de M. Crochamps, dont le logis excentrique avait provoqué mon ébahissement. Elle promenait des regards navrés sur les chaises renversées et les toiles crevées. Une portière pendait en loques. Des pinceaux jonchaient les tapis refoulés et plissés. Guillaume, le squelette, décroché au cours du combat, s'était affalé sur ses rotules, le crâne enfoui derrière un pouf. Oscar, tout de blanc habillé, gisait le nez à terre. Le médecin examinait avec attention le cou du cadavre. « Il n'y a pas l'ombre d'un doute, » affirma-t-il. « Strangulation. Voyez, monsieur le commissaire, les marques des doigts sont nettes, et quelles marques !» À son tour, le commissaire se pencha, fronçant les sourcils. « Appelez l'agent Ramu, » dit-il. L'un des deux hommes qui ne disait rien sortit. « Quels sont ces gens ?» me demanda Rosine. « Des policiers. Oh, vous avouerez que ce n'est pas banal, » fit le commissaire, mi-maussade, mi-déconcertant. Le médecin imprudent hocha la tête, mais l'agent Ramus s'introduisit avec respect. « Monsieur Breteuil, » me dit le commissaire, « c'est bien vous et Rabut qui êtes arrivés les premiers ?»« Oui, appelé par monsieur, » répondis-je en désignant le valet de chambre. « Comment vous nommez-vous, mon garçon ?» Une bouffée de rhum et de café embauma l'atmosphère. Crépin déclinait ses noms, prénoms et qualités. À ce moment, la porte du fond s'ouvrit et donna passage à deux figures que je voyais pour la première fois. Un grand vieillard, pâle, s'avançait vers nous, précédant une femme coiffée d'un bonnet tuyauté et affligée d'un bizarre effacement de physionomie. Ses traits, sauf la bouche rapace, n'étaient qu'intention et velléité. Le vieillard marchait droit. Ses yeux durs, enfoncés dans des orbites sombres, semblaient ne voir personne. Mais son regard tomba sur le divan, et sa pâleur, qui était extrême, s'accentua pourtant. Je devinais que c'était M. Édouard Orlac avant qu'il l'eût dit au commissaire de police, car Stéphane et lui, malgré l'âge et la taille, se ressemblaient. Seulement Stéphane n'était que la copie émoussée de ce modèle anguleux. Le père et le fils se donnèrent la main silencieusement, tandis que l'épouse Crépin desserrait ses lèvres cupides pour répondre à l'interrogatoire du fonctionnaire. « Reprenons, » dit celui-ci. « Crépin, vous êtes entré ici à quelle heure ?»« 6h30, monsieur le commissaire. »« Décrivez-moi ce que vous avez vu. » Un cruel embarras hébétait le bonhomme. Le docteur intervint. Oh, il n'y a aucun inconvénient à ce que la scène soit reconstituée, dit-il. L'examen du corps nécessitera le découpage des vêtements et je n'en vois pas l'urgence. Le cadavre a gardé son attitude. Parfait, acquiesça le commissaire. D'ailleurs, le juge d'instruction ne tardera pas. Il sera content de voir les choses comme elles étaient. Bouillard, on a téléphoné pour la photographie? Oui, monsieur le commissaire, répondit l'un des policiers. Eh bien, allons-y. Monsieur Breteuil et vous, Rabu, arrangez ça, puisque c'est vous qui l'avez dérangé. Crépin, vous n'avez touché à rien, n'est-ce pas? Oh non, monsieur, j'ai poussé un cri et je me suis sauvé dans la rue. Madame Orlac m'a dit par la suite quelle avait été sa stupeur de nous voir, le gardien de la paix et moi, appréhender Oscar, le mannequin, comme un malfaiteur, le porter au divan et le déposer sur le cadavre de monsieur de Crochant. N'avions-nous pas l'air, en effet, de profaner ce qu'il y a de plus sacré? Rompu aux mœurs judiciaires, avant de déplacer les choses, j'avais scrupuleusement noté leurs dispositions. Ce fut donc avec certitude que j'agenouillai la grande poupée sur le corps du chevalier, que j'enlaçai la jambe droite de l'un à l'autre à la jambe gauche de l'autre et que je logeai les doigts de Bui dans les profondeurs motrissures qui stigmatisaient le cou de l'assassiné. Il s'y adaptait exactement. La remarque en fut faite par le docteur qui ajouta oh, « Je réponds que la victime a été étranglée avec ces mains-là, des mains de bois. Oh, une main de chair n'aurait pas laissé des traces aussi nettes, aussi rudes. Une main d'homme incrustée dans un cou n'y laisserait pas des empreintes de jointures articulées. Et moi, dis-je, je jure que voici le spectacle qui s'est offert à ma vue quand j'ai pénétré dans cet atelier. » « Mais c'est bien cela, » reconnut Crépin en levant les bras au ciel. « Parfaitement, » appuya l'agent Ramu. Je repris. « Sauf le mannequin, rien n'a été touché. Le chapeau qui enroulait sous la table y est encore. Je suis entré par la porte que M. Crépin avait laissée bâillante et j'ai vu cela. Dans le désordre bousculé de ses meubles, ce cadavre étranglé par ce fantoche, pendant que ce squelette blotti, apeuré, semblait se cacher la tête et se boucher les cavités auriculaires pour ne rien percevoir du meurtre incroyable. C'est fou, c'est impossible, mais c'est comme cela. Rameau me soutint d'un énergique « Parfaitement !» Notre premier soin, poursuivis-je, fut de débarrasser M. de Crochant du mannequin qui l'étouffait. Peut-être tout espoir n'était-il pas perdu, hélas. Nous ne pûmes que constater la mort. Vous remarquerez que le mannequin porte lui aussi des traces de lutte. Ses habits sont déchirés, sa tête de carton est fortement cabossée. Des coups de canne, semble-t-il, lui ont été distribués sans compter. Tout en parlant, je regardais à la ronde les témoins de cette étrange démonstration. Je ne savais rien de l'aventure fantastique qui, depuis plusieurs mois, tournoyait dans notre vie parisienne comme un muet cyclone dont Stéphane était le centre. J'attribuais son trouble et celui de Rosine au seul étonnement et au seul chagrin. Il faut dire que l'événement légitimait toutes les émotions et que pas un de nous ne se sentait dans son assiette. Hermance, croisant sur son ventre les orteils de ses mains, déclara « Oh, monsieur Crochant a dû rentrer vers minuit et quart, par là, j'ai entendu. C'est-à-dire, j'ai entendu qu'on montait l'escalier et qu'on ouvrait la porte. Aussitôt, il y a eu du potin, alors j'ai pensé qu'il n'y avait pas de lumière et qu'il butait dans les chaises. » Mais je m'en suis pas fait pour ça, parce que ça a duré qu'un instant. Et après, dit le commissaire, silence complet? Oui, je m'ai rendormi, mais moi je me dors avec d'un œil et je ne pourrais plus rien entendu, aussi sûr et certain que me voilà. Crépin s'enhardit. Mais le mannequin était toujours posté contre l'entrée, Vous auriez dit qu'il était embusqué derrière la porte pour se jeter sur les arrivants. Oui, oui, grommela le commissaire avec impatience. Mais tout cela, c'est de la mise en scène. Il y a deux portes par où le véritable meurtrier a pu s'introduire dans cet atelier. Celle-ci qui donne dans l'hôtel, n'est-ce pas, et celle-là qui communique par l'escalier avec la maison de rapport. Les traits d'Herman se pétrifièrent et elle dit avec une irritation à peine réfrénée « Ah, mais jamais de la vie, personne n'a passé par la porte de l'hôtel. Ça devant Dieu et devant les hommes, vous savez. Sans que ça paraisse, moi je fais bonne garde. L'atelier, c'est l'atelier, et l'hôtel, c'est l'hôtel. L'hôtel, moi, j'y suis pas pour brailler aux corneilles. » Alors, ce serait par l'autre porte. Ah, n'oubliez pas, dit le docteur au commissaire, que les mains de la poupée s'ajustent comme de cire au creux du cou et du larynx. Le commissaire fit un haut le corps et tira sur son bouc. On ne distingue qu'une seule prise au cou de la victime, détailla le médecin. Autant dire que M. de Crochant a été saisi à la gorge dès sa rentrée chez lui, ici, au seuil de cette pièce. Et son agresseur ne l'a plus lâché. D'abord, il s'est démené, pris dans l'étau qui l'asphyxiait, l'empêchait de crier. Il a tapé, il s'est défendu des pieds, des poings et de la canne. Mais l'assailleur le tenait bien et, pour éviter le bruit, il l'aura poussé dans les coussins de ce sofa et c'est là qu'il en finit commodément. Je vous donne ma version pour ce qu'elle veut, mais vous reconnaîtrez que les apparences... Il s'arrêta pour ouvrir un panneau de la grande baie vitrée. Madame Orlac donnant des signes de défaillance. Elle essuyait en tremblant son visage décomposé. Le combat évoqué par le médecin l'avait glacé d'horreur. L'affreux groupe formé par le chevalier et son mannequin diabolique lui était un supplice intolérable. Elle se mit à la fenêtre et respira le grand air à plein poumon. Un mannequin criminel, oh, nous voilà propres avec cette histoire, grogna le commissaire en haussant les épaules. Parbleu, c'est inadmissible, lui dis-je. Mais jusqu'à nouvel ordre, il faut l'admettre. Il faut l'admettre provisoirement, parce que cette hypothèse-là est corroborée par les faits brutaux et qu'une explication provisoire est préférable à l'absence de toute explication. Il sera temps plus tard de la remplacer par une autre, meilleure, plausible, à moins qu'elle-même ne vienne s'expliquer et que nous ne trouvions un synonyme raisonnable à ce mot insensé, une poupée criminelle. Oh, une poupée criminelle, non pas ! Nous nous tournâmes vers celui qui, d'une voix caverneuse, venait de prononcer cette dénégation. Droit comme dans une armure, M. Orlac père semblait quelque prophète inspiré. Non pas, répéta-t-il, mais un mort assassin. Et il reprit après une pause. Depuis quelque temps, messieurs, c'est à l'aide de ce mannequin que mon ami et confrère se livraient aux pratiques de la nécromancie. C'est dans cet homme artificiel qu'il appelait l'âme des morts et que ses âmes venaient tour à tour lui parler. Le docteur, sans cesser de regarder le vieillard, chuchota quelque chose à l'oreille du commissaire et j'entendis celui-ci lui répondre tout bas. « Mais oui, Édouard Orlac, vous savez bien, Apollonius d'Andorre, le spirit. » L'autre aussi, deux types, oh, le plus bel ornement de mon quartier. Attendez, nous allons l'interroger. Monsieur Orlac, pouvez-vous me dire comment Monsieur de Crochant s'y prenait pour causer avec les âmes ? C'est tout une initiation que vous me demandez là. Mais de quelle façon se manifestaient les esprits par l'intermédiaire de ce mannequin ? Ben, tantôt par des phrases qui s'échappaient du simulacre dans les ténèbres, tantôt par des coups frappés à l'intérieur. Savez-vous si M. de Crochant avait l'intention d'évoquer les morts cette nuit ? Je ne crois pas qu'il l'ait jamais fait dans la solitude, il ne m'a rien confié. Nous n'avons pas dîné ensemble. Hermance alors reprit la parole. Moi, je peux vous dire que M. Groschamp a fait séance, pas plus tard qu'hier, 7 à 8. Le spirit saisit cette révélation. Des esprits, dit-il, sont avides d'incarnation. Être évoqués, c'est pour eux une sorte de résurrection passagère qui les remplit d'une propre joie. L'un d'eux serait resté dans le mannequin, que cela ne me surprendrait pas. Mais Hermance, tenace, insistait. Moi, j'ai l'œil et l'oreille. 7 à 8, hier. Et je pourrais peut-être pas vous dire avec qui était, Monsieur Crochon. Je pourrais peut-être vous le dire. La ménagère dardait sur Stéphane un regard de chouette. Il fit un pas en avant et dit « Mais c'est avec moi, j'allais vous en parler. » Nous avions tous l'impression du contraire. À coup sûr, Hermance n'était pas sympathique, mais nous ne pouvions savoir qu'elle haïssait en Stéphane l'héritier de son maître, le fils unique à qui les millions de l'ancien notaire devaient bientôt échoir. Femme de charge consciencieuse et méfiante, il nous semblait normal et même il nous semblait heureux qu'elle exerçât dans cette maison baroque une étroite surveillance. Au rebours, rien ne nous expliquait l'attitude et l'hésitation de Stéphane. Il était hâve, mal peigné, pas rasé, pas lavé. Ses yeux fuyaient, moins timides que peureux. Et il se tenait les mains avec force pour qu'on ne vît pas qu'elle tremblait. « Voilà !» dit la servante avec un petit gloussement de jouissance. « Quoi ?» s'écria M. Édouard Orlac. « Tu venais ici, Stéphane ? Et vous faisiez de l'occultisme, Crochant et toi ?» Un tel ébahissement arrondissait ses yeux que nous eûmes la certitude d'être engagés sur une bonne piste. Stéphane le comprit et ne put s'empêcher de le laisser paraître. Ramu s'adossa négligemment à la porte de l'escalier. Bouillard se rapprocha de l'autre sortie et son collègue ferma la vitre. Rosine, verdâtre, triturait son mouchoir. Il est parfaitement exact, dit Stéphane avec une fermeté soudaine, que je suis resté ici en compagnie de M. de Crochant hier, oui, de 7 à 8, et que ce mannequin lui a servi pour ce qu'il appelait l'évocation des morts. Mais je m'empresse d'ajouter. Il hésita devant son père à décrier l'occultisme et dit seulement, il s'agissait pour lui de me donner une idée de sa science. Je ne suis pas un adepte. Quand même, fit Hermance d'un ton narquois et doucereux, dites voir un peu quel mort que vous avez fait venir. Stéphane, d'un geste, voulut traduire son mépris. Monsieur le commissaire, glapit Hermance, moi je suis franche. Ils ont fait venir Pranzini, Anastey, Ravachol, une bande d'assassins, d'éventreurs et d'étrangleurs. Elle agitait furieusement ses mains déplaisantes qui semblaient en rupture de chaussettes. Puis il y eut un instant de silence. Et le commissaire, observant Stéphane, articula. Ce que je retiens surtout, monsieur, c'est que vous êtes sans doute la dernière personne qui ait vu monsieur de Crochant. On vous a dit qu'il était sorti sur le tard. Non, on nous a dit que quelqu'un était entré ici vers 12h15. Est-ce lui qui entrait ? La question se pose. Nous rechercherons s'il est sorti et dans ce cas où il a passé la soirée. Mais son chapeau, sa canne, monsieur, voilà des preuves. Rosine, qui depuis un instant paraissait plus nerveuse, s'élança auprès de son mari. Ce n'est pas lui, monsieur, ce n'est pas lui. C'est moi. Stéphane la considérait plein d'effarement. Rosine suffoquait. Sa véhémence, son trouble, la fatigue de ses traits, la négligence de sa tenue pourtant élégante, composaient un ensemble louche, le même qui caractérisait Stephen. La violence de son cri aviva les soupçons du commissaire. « Que voulez-vous dire ? » fit-il sévèrement.